Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Alain Humbert. Bonjour Alain Humbert, vous êtes
Bonjour.
ingénieur art et métiers, vous avez occupé des postes de management, vous avez créé votre cabinet de conseil qui s'appelle Chrono Concept, un cabinet de conseil en management. Vous avez formé plus de 8000 cadres et dirigeants sur justement cette méthode de gestion du temps. Au début, quand j'ai vu votre métier, j'étais un peu surpris. Je me suis dit, tiens, il y a un professionnel maintenant, voilà, qui conseille sur la gestion du temps les entreprises. On pourrait rire au début, mais finalement, réfléchissant bien, on se dit que c'est peut-être le fléau des temps modernes, car on entend toujours des entrepreneurs, que ce soit des artisans, des cadres, enfin peu importe, les gens dire, on est débordé, on a plusieurs choses à faire en même temps, on ne s'en sort pas. Est-ce que la gestion du temps, c'est presque le fléau de ce 21e siècle.
Eh bien, oui et non. Oui, parce que, comme vous le disiez, et le Covid a complètement brouillé les cartes. Avant, on avait le temps privé, le temps à la maison, qui était bien déconnecté du temps, on va dire, professionnel. Et puis, ben maintenant, les gens ont dû mélanger les deux. Et puis, c'est vrai que bah, il y a ce mélange des genres qui fait que les gens sont encore plus perdus qu'avant. Néanmoins, en même temps, La Bruyère disait, je crois que c'est au XVIIe siècle, ceux qui se plaignent de ne pas avoir ces temps sont des gens qui savent pas gérer leurs priorités ou quelque chose comme ça. Je pourrais vous retrouver la vraie citation. Ça veut dire que même au XVIIe siècle, il y avait des problèmes de gestion du temps. Et là où on se leurre, c'est qu'on pense que la technologie, normalement, devrait nous aider à mieux gérer notre temps. Alors qu'en fait, elle a renforcé le problème.
Ah oui, mais il y a
Mais
quelques siècles,
il y a 400 ans.
on n'avait pas les mails qui arrivaient en permanence, le téléphone qui sonnait en permanence, une notification de ci ou ça, c'était pas pareil.
Oui, mais en même temps, une lettre pour faire Paris-Marseille quand elle arrivait, elle mettait une semaine. Donc vous vous rendez compte, c'était encore plus. Là, on devrait, entre guillemets, gagner du temps, puisque la lettre, elle met moins d'une seconde pour faire Paris-Marseille.
J'ai vu votre méthode, évidemment, optimiser ses récurrences, identifier sa chronobiologie, établir ses plans d'action. Comme tous ces genres de méthodes, on se dit c'est sympa sur le papier, mais ça ne nous correspond pas parce que lui, peut-être quand il a écrit ça, il n'a pas des sociétés à gérer, des feuilles d'impôt, une lettre recommandée qui arrive. Est-ce que chaque cas est particulier? Que répondez-vous à cet argument?
Alors, premièrement, il, pour reprendre votre terme,
Le,
il a
c'est-à-dire
une
vous,
entreprise,
l'auteur, voilà, l'auteur.
il a une entreprise avec sept personnes entre les salariés et les sous-traitants partenaires à gérer. Il fait 50 000 km de train, plus 30 000 km de voiture, plus 100 à 200 000 km d'avion chaque année hors période de pandémie, puisqu'il parle de ces sujets en français et en anglais dans la planète entière. Et puis, il a quand même une femme depuis 35 ans, c'est la même. Il a deux enfants, cinq petits-enfants. Et il est engagé en plein de bénévolat dans des associations comme Réseau Entreprendre, 60 000 rebonds, etc. Et il arrive à faire du sport et du yoga quand même. Donc, il s'applique à lui-même ce qu'il met dans son livre. Et par contre, effectivement, vous avez, alors je pense que c'est volontaire, parler que de la partie quotidienne, opérationnelle, les mails, l'accusé de réception, l'imprévu, la réunion avec le proviseur qui vous a appelé parce qu'il veut vous parler de votre gamin, etc., etc. En fait,
Vous devez
ça, c'est la
rendre
fin.
quelque chose pour un client qui est important
Voilà,
avant la fin
voilà.
du lendemain. Et puis le salarié qui était
Voilà.
dédié à cette tâche vous appelle le matin à 8h30 en vous disant, mon fils a le Covid, je suis obligé de rester à la maison. Donc c'est vous qui vous décotinez cette tâche parce
Exactement.
que sinon vous allez perdre votre client. Mais si vous faites ça, pour ne pas perdre votre client, il y a votre comptable qui vous appelle pour vous dire que vous devez passer avant midi signer des déclarations. Vous voyez, c'est ça.
Vous avez raison, c'est ça. C'est ça, mais ça, c'est la fin de la méthode qu'il y a dans le livre. Il y a 11 étapes dans cette méthode, et là, vous êtes en train de parler de la méthode pour traiter des 8e, 9e, 10e et 11e étapes. Alors, moi, j'ai bien envie de vous parler des premières parce qu'effectivement, c'est par là qu'il faut prendre la chose. On a tous 24 heures dans une journée. On a tous 24 heures dans une journée. Si on réfléchit bien, on a, pour mener quelques projets que ce soit dans notre vie privée ou pro, 5 ressources. La ressource argent, la ressource en information, la ressource en matériel, la ressource humaine. Des fois, la ressource humaine, c'est juste nous. Et la ressource en temps. Les 4 premières ressources, elles sont stockables. Vous pouvez stocker de l'argent dans une banque si vous n'en avez, si vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez stocker de l'information dans des livres, dans des cerveaux, voire même dans des nuages. Vous pouvez stocker du matériel chez Kiloutou, chez Loxam, chez Castorama, chez Hertz, chez Alice. Et puis même si ça m'écorche un peu la bouche de le dire, il faut bien reconnaître que la ressource humaine, quand on n'en a pas besoin, elle est entre guillemets, hein, gros guillemets, stockée chez Pôle emploi, chez Manpower, chez Adecco. Sauf que la cinquième ressource temps n'est pas stockable. Il y en a un qui a essayé de l'arrêter, Lamartine. Il disait autant suspend ton vol. Il n'est jamais arrivé. Et c'est ça qui pose problème. C'est qu'on peut pas stocker le temps. On peut pas dire, là, je suis dans un embouteillage pendant une heure, je mets de côté, comme ça, ma journée, j'aurai une journée de 25 heures un jour. On a tous 24 heures dans une journée. Donc, en fait, gérer le temps, en fait, ça n'existe pas. Parce qu'on peut gérer que des ressources qu'on peut, stocker ou mettre de côté quand on n'en a pas besoin pour les ressortir quand on en a besoin. Le temps, c'est impossible. La seule chose qu'on puisse faire avec le temps, c'est l'utiliser et le consommer. Les 5 secondes qui viennent de s'écouler, vous les récupérerez jamais. La seule question qui vaille le coup, c'est est-ce que je les ai bien ou mal utilisés? Et c'est ça, quand les gens disent j'ai perdu ou j'ai gagné du temps, c'est impossible. Leur journée va pas faire 23 heures ou 25 heures aujourd'hui, elle va faire 24 heures. Quand ils disent j'ai perdu ou j'ai gagné du temps, c'est ils disent en fait j'ai bien ou j'ai mal utilisé mon temps. Et en fait, quand les gens disent je veux mieux gérer mon temps, ils me disent en fait je veux mieux l'utiliser.
Oui.
Et bien et mal, ou mieux, c'est des notions hyper subjectives. Ils font tout appel à une référence. Quand un monsieur avec un joli casque, son uniforme bleu, me dit « Monsieur, vous venez de mal conduire », ce qui lui permet de dire ça, c'est qu'il compare un fait, ma photo avec la plaque numérique de ma voiture et puis en dessous un chiffre relativement élevé, je le concède, il compare ce fait à un référentiel qui s'appelle le code de la route. Et c'est ce qui lui permet de dire que j'ai mal conduit. Donc si vous voulez bien ou mal gérer votre temps, vous avez besoin de bâtir votre propre référentiel de bonne utilisation du temps. Et c'est les 11 étapes de mon bouquin.
Et justement, et là, j'ai commencé en vous provoquant un peu, en vous disant oui, mais il y a les cas particuliers, etc. Mais maintenant, voilà, il y a quand même des choses très utiles qui relèvent même du bon sens et qui nous concernent tous. Quand vous évoquez, par exemple, dans la méthode, se discipliner avec ses mails, canaliser les interruptions, le bon sens nous amène tous à penser cela.
Bien
et
sûr.
Pourtant, on ne le fait
Bien
pas.
Sûr.
On se dit, alors, par exemple, aujourd'hui, je ne vais pas ouvrir le réseau social de toute la journée. Puis vous avez une notification qui s'accroche. On dit, tiens, un tel, là, qu'est-ce qu'il a mis un tel? Et là, vous avez pris 2-3 minutes.
Ouais. Ben, en fait, vous savez, cette notification ou ces mails, la vraie question, c'est est-ce que je passe du bon temps à utiliser ces mails? Est-ce que je passe une bonne heure à regarder ses mails? Parce qu'on revient sur la notion de bien utiliser son temps. Et la première des choses, c'est analysons d'abord sur quoi on est bon et surtout sur quoi on prend du plaisir. La gestion du temps, je mets des guillemets puisque je vous ai démontré il y a 2 minutes que c'est impossible de gérer le temps, la gestion du temps, c'est une affaire d'émotion, pas une affaire de méthode. La gestion du temps, c'est pas de l'intellect, c'est de l'émotionnel. Parce que plus je passe du temps à des choses où je me sens bien, moins j'aurai l'impression de perdre du temps. Plus je serai efficace, moins je ferai d'erreurs. Et ça s'appelle passer une bonne heure et ne plus passer une mal heure.
Vous évoquez
et bon
ça.
Et bien, ouais. Et bien et mal, c'est une notion effectivement subjective, sauf que quand on apprend avec les 11 étapes que je propose dans la méthode à structurer ce référentiel, on va commencer par penser sur le temps long, pas sur le temps court des 3 minutes de notification auxquelles vous faisiez allusion il y a 2 minutes. Le temps long, c'est quoi? Ben, c'est nos valeurs humaines. Dès que je passe du temps à des activités, qu'elles soient privées ou professionnelles, qui nourrissent mes valeurs, je me sens forcément bien. Parce que ce sont mes valeurs, c'est ce qui me structure en tant qu'adulte. Personnellement, là, si je suis en train de vous parler et si j'ai écrit cette méthode, c'est parce que j'ai la valeur de transmission chevillée au corps. Et je sais d'où elle vient. Je sais qu'elle vient de mon grand-père et de ma grand-mère. Et donc, chaque fois que je suis en position de passer du temps à transmettre quelque chose, et surtout des outils qui ont déjà, comme vous le disiez, changé la vie de plus de 10 000 personnes, eh ben, je me sens vachement bien, et donc j'ai absolument pas l'impression de perdre du temps. Là, en ce moment, avec vous, je perds pas du temps. Non pas parce que je suis en train de faire la promotion de ma bouquin, c'est pas ça qui va m'en riche. C'est parce que je suis en train de vous utiliser, parlons pour l'expression, comme vecteur parce que vous allez transmettre des choses qui marchent. Et là, je kiffe. Et là, je me sens bien. Et donc, je perds pas mon temps.
Et moi, je perds pas mon temps non plus, parce qu'à l'issue de cette conversation, je serai plus enrichi intellectuellement que je l'ai été avant de commencer la conversation.
Et là, les gens vont entendre, vos auditeurs vont entendre mon enthousiasme dans ma voix d'ange que je suis en train de parler. Et l'enthousiasme, c'est pas intellectuel, c'est émotionnel. La gestion du temps, c'est une affaire d'émotion, avant tout. Et une fois que vous avez aligné la majorité de vos activités privées et professionnelles avec vos valeurs, et que tout le reste, vous dites non, parce que la gestion du temps, c'est aussi apprendre à dire non, parfois aux autres, souvent à soi-même, et bien à ce moment-là, quand on a fait le tri et en disant bah non, je passe plus de temps à ces choses qui ne nourrissent plus mes valeurs, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, hein, mais c'est simple.
Moi, sur cette notion du temps, je vais vous raconter une anecdote. J'ai toujours eu cette réflexion, parce que je l'ai vue, j'ai assisté à des scènes, que des grands PDG du CAC 40, hein, je parle bien de gens très très importants, PDG du CAC 40, où vous avez le barrage dans son cabinet, la secrétaire, parfois même ils ont des directeurs de cabinet comme des ministres, il n'a pas le temps, c'est pas possible, il n'a pas le temps, mais quand le même gars est invité à un cocktail, etc., et qu'il voit une très très jolie femme, et que la femme est dispo pour prendre un verre en fin d'après-midi, je peux vous dire que le temps, il le trouve toujours. À cela, il y a une notion de plaisir. Le temps, il le trouve toujours. Et je dis souvent, en plaisantant, à quelqu'un qui me dit « J'ai envoyé un SMS à un tel, quelle personne, il est important, ou le mail, mais pourquoi il ne m'a pas répondu ? Est-ce que tu crois que s'il ne m'a pas répondu, c'est parce qu'il ne l'a pas reçu ?» La personne veut croire qu'il n'a pas reçu. Et je lui dis « Ne t'inquiète pas, il l'a reçu, parce que si tu lui avais envoyé un SMS en lui disant que tu es notaire et qu'il a un héritage avec 500 000 euros d'un oncle d'Amérique, crois-moi, il t'aurait répondu dans les 20 secondes. Donc s'il n'a pas répondu, c'est que ça ne l'intéresse pas. » C'est ça, finalement, le rapport au temps.
Ben oui, et je vais rebondir sur ce que vous avez dit il y a une seconde, quand ce PDG dit « j'ai pas le temps ». Analysons sémantiquement cette phrase. C'est impossible parce qu'on a tous 24 heures dans une journée. Quand la personne vous dit « j'ai pas le temps » ou « j'ai pas eu le temps de le faire », en français, elle vous dit « j'ai choisi ». Non. Ça veut dire « j'ai choisi de passer mon temps à autre chose qu'à cela ». C'est un choix. La gestion du temps, c'est juste une histoire de choix. J'ai 2 heures de temps devant moi et j'ai le choix entre l'activité A qui me prend 2 heures ou l'activité B qui me prend 2 heures. Je choisis laquelle des deux. La gestion du temps, ça n'existe pas. C'est juste une question de gestion des priorités, comme le disait Lamoriere. Et qui dit choix, dit critère de choix. Et le référentiel de bonisation du temps que je propose dans mon bouquin en 11 étapes, c'est effectivement bien identifier clairement nos critères de choix. Exemple, toutes les sollicitations dont je fais l'objet, tous les projets que j'ai envie de faire, s'ils ne matchent pas mes 3 valeurs principales qui sont plaisir, liberté et transmission, je dis non. Ils ne rentreront pas dans mon agenda. Et mes valeurs, c'est le premier critère de choix. Oui, non. Ensuite, le deuxième critère de choix, c'est est-ce que cette sollicitation ou cette envie que j'ai envie de passer du temps sur ce projet ou ce truc, oui, ça passe le filtre de mes valeurs. Ça nourrit mes valeurs. Deuxième filtre, est-ce que ça me permet de réaliser un de mes rêves? Parce qu'un rêve, c'est pas un idéal. Un rêve, c'est fait pour être réalisé. Si la réponse est oui, ça va me permettre de réaliser un rêve, alors je dis oui, ça descend d'un cran dans mon agenda. Mais si la réponse est non, eh ben, c'est non, je passerai pas de temps à ça. Ce qui fait que, quand vous passez tous ces filtres-là, je vais pas tous vous les donner, on n'a pas forcément de temps, ce qui arrive dans votre agenda, c'est de l'inox.
Ils sont là.
C'est de la substantifique moelle. Et vous avez une niaque incroyable pour passer du temps à ça. Et vous allez voir que vous avez moins de mails, vous avez moins d'interruptions, moins d'antiquineurs. Parce que vous êtes focus, parce que vous avez fait ce travail de filtre, valeur, rêve, objectif.
Ce que vous dites est passionnant et difficilement applicable peut-être à certains. Je vais vous citer 2 professions pour lesquelles c'est difficilement applicable. La mienne, celle de journaliste, et celle d'un policier, par exemple. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est dans des professions où parfois l'imprévu amène une bonne info, on va quelque part, on n'a pas trop envie d'y aller, on sait que ça va pas être utile, on y va deux fois, trois fois, mais la quatrième fois, on va peut-être croiser quelqu'un qui va nous donner une source, une bonne info, peu importe dans quelle profession on se trouve. On sait qu'il y a des gens intéressants qu'on va revoir la troisième ou quatrième fois, mais qui ne nous apportent rien. Parfois, on est obligé de tout accepter, de tout recevoir, parce que dès qu'on fait un tri, parfois, on peut passer à côté d'un pour cent de choses. Voilà, j'ai cité ces deux professions hein, qui me venaient...
C'est génial. Vous savez quoi ? Parce que je vais rebondir, parce que vous apportez de l'eau à mon moulin au lieu de tarir le moulin. C'est que je souhaite vraiment aux policiers dont vous parlez d'avoir comme valeur don de soi, sacrifice, sécurité, patriotisme, comme un soldat. Parce que là, il va kiffer grave son métier, pardonnez-moi l'expression. Et s'il n'a pas cette valeur, alors il va traîner un ennui pendant 30 ou 40 ans. Et il ne va pas se sentir bien. Et il aura l'impression de perdre son temps, mais il y est allé parce que papa lui a dit de le faire ou parce que machin. Et vous, Yannick, l'enthousiasme que j'entends dans votre voix me montre que vous êtes en train de passer du temps à ce métier de journaliste parce qu'il nourrit une ou plusieurs valeurs. Je ne sais pas lesquelles, peut-être vous n'en êtes pas conscient, mais une valeur effectivement de transmission comme moi, mais pas de la même façon. Vous transmettez une info que vous avez récupérée. Moi, je transfère un savoir-faire et des outils qui auront changé la vie des gens. Mais quand j'entends un enthousiasme comme j'entends dans votre voix, je sais que je suis en face de quelqu'un qui passe du temps à nourrir ses valeurs dans cette activité. Et ne me dites pas le contraire. C'est impossible.
Oui, puis le temps... Et pour certains, quand on parle de vocation, voilà.
Et bien, c'est ça.
Quand on parle de vocation, la notion de temps n'existe pas. C'est la vie. On passe sa vie à.
Et ben non.
On peut passer sa vie
gens,
à.
Les gens me disent. Ben, c'est ça, les gens me disent, mais tu bosses le week-end ? Je dis non, je m'éclate le week-end. Il dit, mais c'est ton travail ? Je dis non.
C'est ma vie.
Je passe du temps. Une
c'est votre vie.
Qui nourrit ma valeur de transmission, de liberté, de plaisir. Je m'éclate. Toi, par contre, si t'as t'emmerde que je travaille le week-end, peut-être que tu devrais regarder si ton travail nourrit tes valeurs.
Du reste, il y a des exercices dans votre livre hein, qui permettent d'identifier à chacun.
Ben oui, ben oui. Ben
ses
oui.
activités, non, ses valeurs.
Je suis ingénieur de formation. Pour moi, nos clients, c'est des TPE, c'est des PME, c'est pas les gens que vous évoquiez il y a 5 minutes et qui vont dans des pincelettes ce soir aux frais de la princesse. Donc, moi, c'est des gens qui viennent me voir et me disent... faut que ça marche, peut-être pas aujourd'hui, mais idéalement demain. Alors, on fait comment ? Donc, voilà, c'est vous le disiez, hein, c'est pragmatique, c'est 11 étapes, tu fais A. Et à la fin de chaque chapitre, on dit à la personne, voilà, maintenant tu fais ça, ensuite tu fais ça, et ensuite tu fais ça. Quand tu as fait tout ça, alors tu passes au chapitre suivant.
Et mon exemple, je peux le décliner par exemple, j'y pensais en vous écoutant, avec un restaurateur, il est dans le train-train quotidien de faire ses menus, sa carte, etc. Mais quand il a fini, peut-être 1h du matin, il ne va pas avoir envie de rentrer, il va être dans sa cuisine, il va remettre une
Exactement.
Sauce différente, un épice, il va goûter.
Exactement.
Et puis il va dire, tiens, Exactement. Le lendemain, il ferait goûter à ses amis, ça c'est génial, je vais le mettre à la carte. Et puis la semaine d'après, il va être dans son restaurant le soir, il va se dire, parce qu'il est fermé son resto, il va passer... Il y a quelque chose dans l'éclairage qui me plaît pas, on va rechanger. Voilà. Là, on se dit, c'est sa vie.
Et ben c'est ça. Et là, il a les yeux qui brillent, il parle de son affaire, de son restaurant avec un enthousiasme dans la voix. Et si vous lui demandez, mais est-ce que tu n'as pas l'impression de perdre du temps en temps, il va exploser de rire.
Vous écrivez qu'il existe un outil finalement qui nous aide à déterminer nos rêves. Ça m'a surpris finalement, ouais. Puisque c'est un rêve, on l'a au fond de nous. Pourquoi avoir besoin d'un outil pour nous guider ? On aurait tous perdu nos rêves ?
Mais bien sûr. Parmi nos auditeurs, il y a des parents qui de temps en temps disent à leur enfant « arrête de rêver hein ». C'est une expression qui est passée dans le langage courant, mais c'est criminel de dire ça à un gamin. C'est criminel. Sauf que comme on nous l'a dit, et comme on l'entend souvent, par des gens, enfin je vais pas citer, hein, et ben voilà, tout doucement, on arrête de rêver, on rentre dans le rang et on rentre dans métro, boulot, dodo, et puis terminé, fin de l'histoire. Et ben non.
Il y a peut-être deux manières de dire arrête de rêver. Ça veut dire il veut faire quelque chose qui pour les parents semble incroyable, ou c'est une passion où les parents en doutent et le parent voudrait le voir médecin, avocat.
Et voilà. Alors lui, il veut être photographe ou infirmier. Ouais. En fait, quand on dit au gamin arrête de rêver, on dit arrête d'essayer de casser le rêve que j'ai pour toi.
Voilà, c'était ce que vous l'avez mieux formulé que moi. C'était un peu le sens de...
Et ouais. Donc, laissons rêver nos gamins. Laissons-les vouloir être Mbappé, Claudie Aigneret ou un photographe dans un petit village qui s'éclate à faire des photos de mariage, de paysage, etc. Parce que ces gens-là, à ce moment-là, vont passer du bon temps. Ils vont passer beaucoup plus de bonnes heures qu'avant. Vous avez réfléchi au sens de bonheur ? Qu'est-ce que c'est le mot bonheur ? Comment c'est écrit en français, punaise ? On a la réponse sous les yeux. Une bonne heure.
Donc, ne
une bonne heure.
Profiter de
et,
son
et un mal heure. Comment ?
Un malheur, oui. Mal heure et...
Mal heure.
Ouais.
Et bonne heure, punaise. Mais c'est une démonstration, on peut plus clair, de la liaison entre gestion du temps, les rêves, et passer du bon temps ou du mauvais temps.
Il y a un point sur lequel
c'est
vous...
C'est émotionnel, tout ça.
Il y a un point sur lequel vous revenez, c'est équilibrer le temps entre la vie privée et le temps professionnel. Est-ce qu'à force de répéter cela à longueur de temps, voilà, un verre, on n'est pas en train, entre les 35 heures, ça, on n'est pas le droit à la déconnexion, voilà, si votre patron vous appelle à 19h30, il va trembler parce qu'il va recevoir une lettre commandée, parce qu'on va avoir sur le relevé téléphonique qu'il a appelé à 19h30, mais on est... Excusez-moi, on est parfois dans la folie. Je veux bien, ok, il y a toujours des minorités, des harceleurs, mais c'est pas la grande majorité, voilà. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de dégoûter les gens du travail, qui fait que maintenant vous avez toute une nouvelle génération qui arrive sur le marché de l'emploi, avant même de savoir quelle va être la mission qu'on va leur donner et quel est le sens de leur travail, ils demandent quels sont les tickets restaurants et les congés payés, quoi.
Ouais, et ben c'est ça. Vous avez prononcé le mot royal, Yannick, le mot sens. Ce qui n'a pas de sens pour moi, c'est quand je passe du temps privé ou professionnel à des activités qui n'ont pas mes valeurs. Le vrai sens, c'est ça. Le sens d'une action, quand on y réfléchit bien, c'est quand je passe du temps à une action qui nourrit mes valeurs, parce que ça a du sens pour moi, c'est utile pour moi. Je me sens utile pour le groupe et le collectif. Donc, et ça, on peut l'exporter dans le monde du travail, vous avez raison. Alors effectivement, il y a une minorité de salopards, que ce soit au niveau management et puis des fois au niveau salarié aussi. Bon, si on accepte ça, cette notion d'équilibre, je vais être complètement iconoclaste et je risque de prendre pas mal de trucs sur LinkedIn, mais je vais citer un de mes mentors américains, texan, il est plus texan qu'américain, s'appelle Ed Foreman. Ed Foreman, maintenant, il doit avoir 85-86 ans. Il a été élu 3 fois au Congrès des États-Unis, il a travaillé avec 6 présidents, dont le premier s'appelait Kennedy. Et un jour, en anglais, il nous disait, cette histoire d'équilibre, c'est de la foutaise. Je traduis de l'anglais au français, c'est de la foutaise. Les gens qui réussissent sont des gens qui vivent une vie qui est une succession de segments de vie déséquilibrés. Autrement dit, des gens qui passent d'un rêve à un autre. Mbappé, Deschamps et les autres, le premier semestre 2018, vous pensez qu'ils cherchaient à équilibrer tout leur temps de vie ? Bien sûr que non. Ils étaient focus sur un rêve, gagner la Coupe du Monde. Quand ils ont gagné, ils sont focalisés sur autre chose. Ils sont donc en train de vivre ces champions de sport et même les gens qui gagnent des médailles aux Jeux Olympiques, aussi pareil. Ils sont en train de vivre une succession de segments de vie déséquilibrés. Et les gens qui cherchent à tout équilibrer perdent peut-être du temps dans des endroits où ils ont rien à faire et ferait peut-être mieux d'identifier ce qui les fait vraiment rêver et de passer un maximum de temps à réaliser ce rêve. Donc oui, équilibrer vie privée et vie professionnelle. Vous savez, je sais plus quel est l'homme, le grand homme qui disait 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de distraction. Ben non. Il y en a, c'est 16 heures de travail et 8 heures de sommeil et ils passent un super bonne heure.
Et puis après, à un autre moment, ça pourrait être 3 jours de distraction non-stop.
C'est la vie de chacun. Exactement. Et c'est une question de choix.
Vous évoquez...
Et je répète, parce que c'est important ce que je veux dire, Yannick, après je vous laisse la parole, excusez-moi. C'est que vos auditeurs ont peut-être pensé, ouais, ça joue facile, etc. Si vous lisez le bouquin, je vous raconte mon histoire et j'ai pas eu des moments faciles. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, c'est pas facile. Choisir de se réorienter, c'est pas facile. C'est simple à comprendre, mais c'est pas facile à faire. Et ça, j'en suis conscient parce que je suis passé par là. et j'explique mon histoire dans le bouquin.
Oui.
Mais voilà, regardez, j'ai plein de clients faisant du transport, dans l'hôtellerie-restauration, on a peine à recruter. Pourquoi? Parce que la crise sanitaire a amené les gens à se poser les bonnes questions. Est-ce que en ce moment, dans mon resto, ou est-ce que ce moment, dans cette telle administration, je suis en train de passer du bon temps? La réponse est non. Eh ben, pour une fois, les gens ont pris des décisions. Ils ont fait le choix de monter, d'être entrepreneur comme peintre en bâtiment, ou d'ouvrir leur petite affaire de location de vélo. Moi, j'ai un client, son directeur administratif et financier a démissionné, vous savez, pour faire quoi? Pour passer son diplôme d'infirmier.
Ouais.
Donc, les gens, cette pandémie a forcé ou a encouragé les gens à faire le choix dont on parle depuis un petit moment, vous et moi.
Alors après, est-ce qu'il ne faut pas aussi se méfier quand on manipule des mots comme « faites votre rêve »,« exercez-le », etc. Parce que là, vous avez posé des questions à tous les jeunes. Maintenant que la génération Z, ils veulent tous être influenceurs sur Internet. Une époque, ils voulaient tous être pilotes de ligne. Une époque, les nanas voulaient toutes être hôtesses de l'air ou bien attachées de presse. Maintenant, ils veulent être influenceurs sur YouTube. C'est devenu une vocation maintenant pour 10 millions de jeunes.
Eh bien, ceux qui vont réussir parmi ces 10 millions sont ceux qui ont deux ingrédients. La rage, la hargne, la foi. On appelle ça, vous et moi, depuis un petit moment, la vocation. Et puis le travail. Parce qu'il n'y a que dans le dictionnaire où réussite arrive avant le travail. Hein.
Il y a un point important, vous démontez les idées reçues, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, etc. Et jamais bien compris ça, c'est identifier sa chronobiologie. Il faut se laisser vivre en fonction de sa chronobiologie et la respecter. Donc, si on veut bosser jusqu'à... Parce que la capacité de concentration, c'est un facteur de temps. Peu importe qu'on se lève à 10h du matin et qu'on se couche à 3h du matin, ou qu'on se lève à 6h du matin et qu'on se couche à 23h, ou à 21h.
Oui.
C'est ce que vous expliquez aussi.
C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est... Là, on vient de passer une partie de l'interview sur le temps long, sur les valeurs, sur les rêves. Bon, bah après, il faut être pragmatique. Tout ça, quand on a identifié nos valeurs, les rêves qui vont nourrir ces valeurs, etc., bah, il faut sortir l'agenda, et puis comme vous parliez de plan d'action au début d'interview, bah faut y aller quoi. Je veux dire, c'est pas en restant en position du lotus dans mon canapé 10h par jour que ça va se faire quoi. Encore une fois, il y a que dans le dictionnaire que réussite arrive avant le travail. Donc effectivement, après il y a l'organisation sur le court terme, comment je gère les mails, comment je prévois les imprévus, ou plutôt comment je prévois la façon de les gérer, etc. Et oui, bien sûr, il y a aussi après se retrousser les manches et y aller.
Il y a un seul point.
Mais c'est pas par là qu'il faut commencer.
Alain Humbert, il y a un point sur lequel je vous trouve un peu trop optimiste, peut-être. C'est quand vous analysez la capacité de concentration. Il y a un peu le temps d'échauffement de 5 minutes et ensuite 20 à 30 minutes. Et j'ai le sentiment, je me base sur plusieurs articles que j'ai lus, sur des témoignages, donc j'ai pas d'études scientifiques, hein, je vous le dis, voilà, avec humilité. J'ai le sentiment que la capacité de concentration est en train de baisser très fortement.
Alors, là, c'est intéressant ce que vous dites. La question, c'est, est-ce qu'elle baisse fortement? À l'époque, mes cours en terminale et après en études supérieures, ils duraient une heure.
Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, les gens
ont
l'habitude des Facebook, de Twitter, d'Instagram.
Voilà. Est-ce qu'on est en train de s'apercevoir qu'effectivement, au bout d'une demi-heure, on décroche? Ou est-ce que vraiment notre hyper-technologie fait que la concentration baisse? J'ai bien peur que ce soit la deuxième option, l'option réelle. Je pense que vous avez raison. Néanmoins, effectivement, vous parlez du site du Pomodoro, hein, qui est connu, je l'ai pas inventé du tout. Où effectivement, alors quand on est vraiment dans une production de jus de cerveau, comme je dis un petit peu de manière un petit peu vulgaire, c'est-à-dire quand on est vraiment concentré, je veux dire là quand j'étais en train d'écrire mon bouquin, je produisais du jus de cerveau, bah je peux vous dire que je l'appliquais ce cycle, hein, 30 minutes de travail, 5 minutes de repos, 30 minutes de travail, 5 minutes de repos, 30 minutes de travail, 15 minutes de repos. Voilà, ça c'est le site du Pomodoro. Sinon, au bout d'un moment, bah, vous avez le filet de bave qui coule de la bouche, et vous apercevez que la souris, elle est restée immobile sur votre écran depuis, bah, vous n'êtes même pas capable de dire depuis combien de temps parce que vous n'êtes plus là.
Oui, mais après, il y a ce que vous appelez, ça c'est passionnant, j'ai beaucoup aimé ce paragraphe dans votre livre sur les micro-tâches. La micro-tâche, c'est quand on se dit on va se mettre au travail, par exemple, je vais me prendre une demi-heure pour aller à fond sur l'écriture de tel dossier, de tel article, de tel rapport, peu importe cette profession, vous ne me dérangez pas pendant une demi-heure. On commence à l'écrire, puis au bout de 5-10 minutes, le cerveau commence déjà un peu à dire ça fait 10 minutes là que tu mets, c'est presque dans l'inconscient. Puis on se dit tiens, j'ai la facture de téléphone à payer. Bon, allez, je me fais une petite pause. Vous allez sur le site internet, mettre votre numéro de carte bleue pour payer telle facture. Vous dites ça vous fait une pause. Puis vous finissez cette micro-tâche et vous reprenez votre boulot. Vous dites, mais en fait, vous ne reprenez pas comme si vous étiez à la 10e minute. Vous êtes obligé de reprendre 5 minutes avant, évidemment. Et beaucoup de gens maintenant sont dans ces micro-tâches très parasites finalement.
Ah oui. Ah oui, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on avance, mais on avance. Alors peut-être Yannick rappelait, pour moi la micro-tâche c'est des choses pas importantes qui durent 5-10 minutes.
Et comme l'exemple que vous avez cité, voilà.
Exactement, c'est exactement
vous
ça.
Vous dites sur toutes les tâches... Finalement, votre conseil, c'est de les noter sur une liste dédiée et s'en occuper dans des moments spécifiques. Se dire, on va
faire ces moments spécifiques, voilà. Et ces moments spécifiques, comme ce sont les tâches dont on parle, ne sont pas des choses importantes, elles n'ont absolument pas besoin de produire beaucoup de jus de cerveau, plutôt dans des creux. En grosso modo, si vous êtes du matin, vous n'allez pas commencer par traiter cette tâche, cette liste de micro-tâches.
Alors qu'on a tendance à le faire parce que c'est moins difficile à faire. Donc on se dit, on n'a pas envie
que vous êtes pas du matin, Yannick.
Voilà.
C'est parce que vous n'êtes pas du matin, Yannick. Vous n'êtes pas du matin. Je vous jure que ceux qui sont du matin à 7h30, ils sont en train d'écrire leur bouquin. Ils ne sont pas en train de payer la note d'électricité. Ça, c'est clair. donc, voilà.
Il y a aussi dans les autres conseils que vous donnez, hein, c'est de mettre en place un squelette sur son agenda. Sont les fondations finalement de sa vie, de son temps,
exact.
De sa planification.
C'est ça.
Il y a plein de choses. Est-ce que vous avez, évidemment, chaque cas est différent, on ne va pas généraliser, mais est-ce que ces méthodes de reprendre son temps en main, vous estimez que ça peut faire gagner 4 heures par semaine? C'est ce qu'on appelle une moyenne. Une moyenne n'est jamais la
c'est
vérité.
C'est une moyenne.
Voilà, chez certains ça peut être 2 heures et d'autres ça peut être 8 heures. Quoi.
Oui, en fait, pourquoi j'ai annoncé 4 heures? Parce que mon éditeur trouvait que si je mettais 8 heures, c'était vraiment trop. Mais en fait, c'est assez simple pour nous de mesurer. C'est que cette méthode, nous, on est un cabinet de conseil, de formation, de coaching, donc on a une formation en 2 jours sur cette méthode. Donc les gens viennent à 10, 12, 15, et voilà, ils font les exercices, etc. Et en formation en pédagogie maintenant, on a découvert que si on laisse ces gens-là au bout de 2 jours livrés à eux-mêmes, ils appliqueront peu la méthode. Donc nous, on propose, 6 à 8 semaines après, une 3e journée qu'on pourrait appeler une journée de SAV, de consolidation, de bilan, et on regarde ce qui s'est bien passé et ce qui tourne pas rond malgré les 8 semaines. Et donc, on retravaille. Et c'est plus du coaching collectif que de la formation cette 3e journée. Et donc, on demande aux gens, 8 semaines après, vous avez gagné combien? Donc les gens nous disent. Quand les gens nous disent, avant je bossais tous les week-ends, maintenant je bosse que le samedi matin, faites le calcul, il a gagné le samedi après-midi, le dimanche matin, le dimanche après-midi. S'il bossait 3 heures par demi-journée, ça fait 9 heures. Il y en a d'autres qui vous disent, ah ben maintenant après dîner je travaille plus. J'ai dit, avant vous travaillez, tous les soirs de semaine je travaille après dîner. Bon ben 5 soirs de semaine, s'il bossait 2 heures par soirée, ça fait 10 heures. Ça va vite à calculer, c'est juste le retour de nos clients.
Dans cette gestion du temps, vous prenez plusieurs exemples et c'est intéressant sur le chapitre de canaliser les interruptions parce que vous avez pris l'exemple d'une femme qui s'appelle Khadija, directrice de l'hôtel B&B à Chartres, dans ses méthodes d'interruption. Ben, je vais prendre une directrice d'hôtel. Si elle applique votre méthode, elle s'est dit « je ne vais pas voir mes mails pendant 2-3 heures, je vais les consulter qu'à midi, je ne vais pas me laisser interrompre, là j'ai cette tâche à faire qui est importante, je vais le faire ». Mais la pauvre, elle est directrice d'hôtel, il y a un client mécontent parce qu'il y avait un truc dans le petit déjeuner qui n'allait pas, qui va l'interrompre, la femme de chambre va venir la voir ou la femme du room service en lui disant « madame, le client n'est pas content ». Si elle dit « je répondrai qu'à midi », etc., entre le temps, le gars va mettre une mauvaise critique sur TripAdvisor. Vous voyez ce que c'est? C'est de l'imprévu.
Ouais. Bah en fait, vous me tendez la perche, c'est-à-dire que vous avez parlé tout à l'heure de squelette. L'idée du squelette, c'est chaque semaine écharpenter autour de trois os, puisqu'on parle de squelette. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais y a quelque chose de fondamental, c'est que oui, tout le monde va être interrompu. Vous pourriez parler de ce gastro-entérologue dans les Antilles qui témoigne aussi dans ce livre.
Oui.
Pareil, un gastro-entérologue, il a juste quelques imprévus de temps en temps. Hein. Eh bien, l'idée, c'est que souvent, quand surtout vous parliez de patrons du CAC 40, de cadres, de gens qui ont des responsabilités, on se dit, ah ben, avec le prix que je suis payé, les responsabilités que j'ai, il faut que mon agenda il soit blindé du lundi 8h au vendredi 19h. Ben, ça, c'est une énorme erreur. Je dirais même que c'est une preuve d'immaturité organisationnelle que de blinder son agenda tel que je viens de le décrire. Les gens qui ont de la maturité organisationnelle prévoient des vides dans leur agenda. Ça ne veut pas dire qu'ils s'enlèvent des heures de travail. Ça veut dire qu'ils se ménagent de l'agilité.
Oui,
Et
mais on se
Kadija.
ménage la possibilité de répondre à l'imprévu, voilà.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si
Et
Kadija.
Khadija a un client qui gueule à sa réception, elle a quelques
Elle va
minutes
s'en
qui sont
occuper tout de
prévues
suite.
pour s'en occuper immédiatement.
Elle va
Donc
non,
prenons
non,
cet
elle va
exemple.
s'en occuper tout de suite.
Voilà.
Et l'idée, du coup, c'est ouais, mais elle est en train d'écrire son bouquin. Donc, du coup, quand est-ce qu'elle va rattraper la demi-heure qu'elle a perdue avec ce client? Eh ben, si son agenda est blindé, la réponse est jamais ou alors tôt le matin ou tard le soir. Si par contre, elle a réservé, nous, ce qu'on appelle des jokers deux, trois fois dans la semaine, eh ben, cette demi-heure-là où elle n'a pas pu écrire son bouquin, elle va le replacer dans le prochain joker. Et ça s'appelle être agile. Et en entreprise, l'agilité, c'est juste super important. Si par
Merci, oui.
contre, son agenda est blindé, quand elle va passer cette demi-heure à gérer le client, dans sa tête en boucle pendant cette demi-heure, va tourner, quand est-ce que je finirai mon bouquin? Quand est-ce que je finirai mon bouquin? Donc, un, elle augmente sa charge mentale. Deux, elle n'a pas le temps de finir son bouquin. Et trois, elle n'est pas concentrée sur ce que son client est en train de lui dire. Triple peine.
Eh bien, merci Alain Humbert. Vous publiez aux éditions Mardaga le livre Je reprends mon temps en main, une méthode inédite pour gagner 4 heures chaque semaine. Vous êtes ingénieur art et métier, vous avez votre cabinet, vous êtes expert en gestion du temps. Vous travaillez notamment à l'Association pour le progrès du management, vous êtes formateur au CJD, au sein du réseau Entreprendre aussi. Alain Humbert, donc
C'est ça.
publié aux éditions Mardaga. Son nouveau livre, Je reprends mon temps en main. Merci Alain, merci de nous en avoir parlé.